monde est passé à côté d'une catastrophe financière de très grande ampleur et il n'y a plus de panique dans la planète finance. Moi, personnellement, je suis fermement de ceux qui pensent que le risque systémique de nature vraiment grave a été désormais écarté.
L'optimisme de l'ancien patron de la Fédération bancaire française, Baudouin Pro, il y a tout juste 10 ans, printemps 2009. On se remet à peine du traumatisme lié à la faillite de Lehman Brothers. Le secteur bancaire vient d'échapper au pire, à grand renfort d'argent public. Et voilà que 10 ans plus tard, la santé des banques européennes inquiète à nouveau. Aurait-elle aujourd'hui suffisamment de réserves pour faire face à un nouveau choc économique? Elles n'ont toujours pas mis en place de mécanismes coordonnés pour sécuriser les comptes des particuliers en cas de coup dur. Pourtant, c'est la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, qui le dit. Ce qu'il reste à faire est clair, établir un système commun de garantie des dépôts. Et elle sait de quoi elle parle, Christine Lagarde. Elle qui était ministre de l'économie il y a 10 ans. À l'époque, le sauvetage des banques lui avait valu quelques nuits blanches dans son bureau à Bercy. Aujourd'hui, quel est le tableau des taux d'intérêt bas qui permettent d'emprunter pas cher mais qui diminuent mécaniquement la rentabilité des banques? Les voilà pressés du coup par les régulateurs de gonfler leurs réserves en fonds propres. Objectif, qu'elles ne coupent pas en cas de coup dur le robinet du crédit comme elles l'avaient fait il y a 10 ans. En France, les banques ont augmenté leurs fonds propres de plus de 50% depuis 2010, mais les projets d'union bancaire au niveau européen patinent. Hier encore, le ministre français Bruno Le Maire plaidait pour des alliances entre établissements européens. À quand une Europe des banques? Une question qu'il serait bon de trancher vite, sans forcément attendre la prochaine crise financière.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Écho du samedi. Un grand merci en ce 6 avril à Lauriane Toulmont qui nous accompagne aujourd'hui à la réalisation, Valentin Pérez à la préparation, sans oublier Mathias Alléon en régie. Le grand écart des revenus au menu d'une émission de débat aujourd'hui. Bonjour Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique.
Bonjour Fabien.
Bonjour Emmanuel Lechypre, éditorialiste à BFM Business.
Bonjour à tous.
Un bonus de 37 millions d'euros, ça vous tente?
Ça, je ne peux pas dire non.
Ouais, rien contre. De Tom Minder chez Airbus à Carlos Ghosn chez Renault, en passant par le patron de Technip, le débat sur les retraites chapeaux et la rémunération des grands patrons est relancé. Combien vaut un grand patron? On en débat avec vous deux dans un instant. À l'autre bout de l'échelle sociale, ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose veulent aussi se faire entendre. L'atterrissage du grand débat leur en fournit l'occasion. Alors que le Premier ministre doit présenter les premières restitutions à partir de lundi, le Secours catholique publie sa contribution. Elle interpelle les milieux économiques. Sa présidente Véronique Fayet sera notre invitée. Nous irons également prendre des nouvelles de l'économie britannique. Il n'y a pas eu de Brexit le 29 mars. Ça attendra peut-être le mois de mai, voire fin juin, si les Européens acceptent un nouveau report. Bref, en attendant que le brouillard se dissipe, le Royaume-Uni tourne au ralenti. Pas de bonus pour vous, Christian Emmanuel, mais peut-être une prime défiscalisée de fin d'année. Vous en avez touché une?
Non.
Non. Sandrine Foulon, alors, bonjour à vous. Ce sera le thème de votre chronique.
Non plus, et vous, Fabien?
Non plus. Ma vie au boulot, en fin d'émission.
Alors moi, j'ai une question de Sophie qui, elle, a reçu ce cadeau et qui voudrait bien savoir s'il sera reconduit l'année prochaine.
Merci Sandrine, et rendez-vous tout à l'heure à 10h05.
C'est une très chère retraite. Un beau parachute doré offert au patron allemand d'Airbus. Le groupe va lui verser un peu plus de 36 millions d'euros.
Des questions sur la rémunération de l'ancien PDG Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, toujours sous contrôle judiciaire au Japon, ne touchera pas de retraite chapeau.
Et non, les termes du communiqué publié à la fin du Conseil sont clairs. Pas de retraite chapeau alors qu'on évoquait une somme de 765 000 euros annuels.
Quand un patron prend un gros chèque malgré des résultats décevants, le président de Technip FMC, groupe de services aux compagnies pétrolières, va toucher un gros bonus.
Si la société pour coter en France, c'est la seule réserve.
Geoffroy Roux de Bézieux.
Un comité qui peut se prononcer.
Président du MEDEF.
Ça avait été le cas sur le parachute doré du patron de Carrefour et qui a renoncé immédiatement. Donc on est capable de faire de l'autorégulation, mais oui, c'est une prime échec et c'est totalement inacceptable.
On parle beaucoup du salaire des grands patrons.
Jean-Louis Chaussade.
Je pense qu'on devrait aussi...
Directeur général de Suez.
Mesurer l'immensité de la tâche qu'ils ont à faire dans un environnement souvent très compliqué. Moi, je suis très très favorable à des rémunérations variables importantes liées à des objectifs très précis.
Je vais juste citer John Rawls, qui est quand même le philosophe libéral des inégalités.
Hélène Périvier.
Qui lui disait...
Économiste à l'OFC.
En fait, le talent qu'on a à un moment donné dans une société, ça n'est que parce qu'on est dans cette société à ce moment-là. Donc c'est une forme de rente qui n'appartient pas qu'à la personne. Et à ce titre-là, ce salaire ne peut pas monter jusqu'au ciel.
Ce niveau de rémunération...
Jean Perlevade.
Par rapport
au monde dans lequel nous vivons.
Banquier, ancien président du Crédit Lyonnais.
C'est une provocation. C'est une confirmation pour les gens ordinaires, si je puis dire, qu'il y a une sorte d'aristocratie qui vit suivant des usages et des coutumes complètement différentes. C'est ça qui me choque le plus.
Je crois qu'un rapport de 1 à 20 entre le salaire le plus bas dans l'entreprise et le plus haut,
Adrien Quatennens,
permettrait d'avoir de la vertu au sein de l'entreprise et puis surtout,
député La France Insoumise.
Si tout en haut de la hiérarchie, on veut maintenir des niveaux de salaire qui sont importants et qu'on en a les moyens, alors on peut le faire, mais on doit aussi augmenter la rémunération des bas salaires.
Ce sont des sommes d'un autre temps.
Bruno Le Maire,
d'un autre capitalisme.
Ministre de l'économie.
Et puisque certains ne veulent pas comprendre, nous allons prendre une série de dispositions. Première disposition, une transparence sur les salaires. Deuxième décision, je ramènerai à 30% du salaire des dirigeants le montant maximum de la retraite chapeau. Troisième chose, nous prévoirons qu'il sera désormais interdit de cumuler retraite chapeau et clause de non-concurrence.
36,8 millions d'euros pour le patron d'Airbus, Tom Enders, 14 pour celui de Technip, FMC, Thierry Pilinco, 765 000 euros de retraite annuelle pour Carlos Ghosn, qu'il ne touchera finalement pas, ainsi en a décidé le conseil d'administration de Renault mercredi dernier. Avant d'entrer dans le débat, je voudrais qu'on se mette les idées au clair, Christian, Emmanuel, quand on parle de retraite chapeau, de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce qu'il y a dans le chapeau?
Bon, c'est une rémunération qui a trois caractéristiques. La première, c'est que c'est un système de retraite privé, d'accord? Les cotisations sont versées par les entreprises, uniquement par les entreprises, pour le dirigeant, pour quelques hauts cadres supérieurs, s'ils sont présents dans l'entreprise au moment de prendre leur retraite. D'où la petite blague sur Carlos Ghosn, il pourra pas la toucher, les gros montants que vous venez de citer, Fabien, parce que en ce moment, il est pas dans l'entreprise. Deuxième caractéristique, c'est un système par capitalisation. L'entreprise place un capital et le bénéficiaire va toucher une rente, ce qu'on appelle une rente, hein, en plus de la retraite de base de la Sécu, en plus de la retraite complémentaire. Donc souvent, on appelle ces retraites chapeau des retraites supplémentaires ou surcomplémentaires, dont le montant est fixé à l'avance. À l'entreprise de se débrouiller pour répondre à ce qu'elle a avancé. Et puis, dernière caractéristique, sur les sommes versées par l'entreprise pour constituer cette retraite chapeau, il n'y a pas de cotisation sociale, il n'y a pas de CSG, il n'y a pas de CRDS. En plus, elles sont déductibles des profits. Ça veut dire que ça réduit l'impôt sur les sociétés des entreprises. C'est un gros manque à gagner fiscal. En fait, on paye tous indirectement par ce gros manque à gagner fiscal ces retraites somptueuses.
Mais ces conditions de départ sont forcément votées à un moment donné, au moins par les actionnaires. Il y a une approbation à un moment ou à un autre, Emmanuel Le Chypre ?
Oui, absolument. Ce niveau de rente, il est déterminé contractuellement, alors ça dépend, c'est en fonction du salaire des dernières années, il y a du variable ou pas, et en fait c'est le comité de rémunération du conseil d'administration qui décide effectivement du montant de cette retraite. Alors ce qui est bien spécifique à cette retraite chapeau, à la différence d'autres primes que peuvent toucher les patrons comme les parachutes dorés, etc., c'est que c'est par définition une somme qui est négociée par contrat, donc qui est totalement indépendante, si vous voulez, du résultat que le patron va obtenir à la tête de l'entreprise. Et c'est pour ça que ça peut choquer, mais concrètement, c'est dans le contrat de travail, et effectivement, même si le patron s'en va parce que il est sanctionné pour une mauvaise gestion, il a quand même le droit de toucher sa retraite, sa chapeau, à condition d'être là, effectivement, au moment ou de prendre sa retraite, sauf qu'il y a des législations européennes qui sont en train de changer tout ça.
Un petit point supplémentaire à ce qu'a dit Emmanuel, et en plus ça doit figurer dans le rapport annuel de l'entreprise, ça veut dire que ça doit être public. C'est pour ça qu'on a tous ces montants régulièrement, mais ça a découragé personne, le fait que ce soit public, de donner ces montants tout à fait somptueux.
Alors cet argument de la réussite et de la performance, on l'entend hein, parfois pour justifier ces sommes, est-ce qu'elles peuvent être méritées, ces rémunérations hors du commun, selon quels critères en fait évaluer les performances?
Vous avez raison Fabien, c'est une vraie performance. Regardez Pierre Richard par exemple, le directeur de Dexia, il a mis sa banque en faillite. 600 000 euros de retraite chapeau. Vous vous rappelez de Thierry Lombard, le patron de France Télécom? France Télécom à la ramasse. 325 000 euros de retraite chapeau. Henri Proglio, viré de Veolia parce qu'il voulait garder à la fois la tête d'EDF et de Veolia, combiner les deux salaires, 740 000 euros de retraite supplémentaire en plus de sa retraite de base. Gérard Mestrallet, PDG de Suède, plus de 800 000 euros, vous l'avez dit, Carlos Ghosn. Bon, la performance, c'est d'arriver à soutirer autant d'argent à leurs entreprises alors qu'ils sont quand même pas tous très très bons.
Non, mais le vrai sujet, et là, quand on élargit effectivement au-delà de cette problématique de la retraite chapeau, dont on, encore une fois, on comprend bien qu'elle est pas liée aux performances, le problème, c'est que sur les autres primes qui devraient être liées à la performance, eh ben finalement, les entreprises se débrouillent toujours pour que les patrons, qu'ils soient bons ou mauvais, finissent quand même par toucher des sommes colossales. Et c'est ça qui est finalement choquant, parce qu'après tout, qu'un patron réussisse et que il permette à sa boîte de gagner beaucoup d'argent, qu'il soit bien payé, c'est une chose. Mais dans les deux cas, c'est pareil. Alors après, vous pouvez justifier ça par la théorie économique. La théorie économique vous dit, bah oui, mais parfois, vous avez intérêt à vous débarrasser très vite d'un mauvais patron, et pour limiter sa capacité de nuisance, finalement, vous l'incitez à partir plus vite. Mais fondamentalement, c'est ça qui est choquant. Il y a quand même une explication à la... parce qu'on peut se dire, mais comment ça se fait que les salaires de ces patrons, ils ont explosé comme ça, c'est-à-dire qu'on parle en millions. Il faut bien comprendre qu'il y a un parallélisme assez parfait entre l'augmentation de la surface financière des entreprises et l'augmentation de la rémunération des patrons. Quand vous regardez depuis 40 ans, la valeur des entreprises, elle a été multipliée par 6 à peu près. Et la rémunération des grands patrons, elle a été aussi multiplié par 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas plus compliqué qu'il y a 40 ans de diriger Boeing ou Airbus, par exemple. Mais ça veut dire que les sommes en jeu sont 6 fois plus importantes, que la responsabilité financière est 6 fois plus importante, et je termine par là, et qu'en fait, la part de la rémunération du patron dans les profits et les chiffres d'affaires de l'entreprise, il a pas tant que ça augmenté finalement au fil des années.
Pourquoi?
Pourquoi?
Parce que surface financière, ça veut dire quoi en fait concrètement? Ça veut dire cours de bourse. En fait, on mesure la performance d'un patron au cours de bourse dont on sait que maintenant plus de la moitié sont faits par des fonds d'investissement complètement opaques, qu'on sait pas d'où ça vient. Donc moi je suis d'accord avec l'idée d'Emmanuel, consiste à dire vous êtes un bon patron, vous méritez d'être bien payé. Vous êtes un bon patron, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que vous créez de la valeur ajoutée, pas du cours de bourse. Et moi, je plaiderais pour que ces retraites chapeau, bon, qu'elles soient éliminées, on verra tout à l'heure s'il y a d'autres solutions, mais les salaires des patrons soient liés à la valeur ajoutée, non pas au cours de bourse.
La question derrière tout ça, c'est combien vaut un grand patron? En définitive, il y a, si je vous entends bien, une loi d'offre et de demande qui s'impose aux rémunérations, ou vous rejetez totalement ça?
Je vais laisser Emmanuel le dire, comme ça.
Cet argument, vous savez que
ça a été utilisé pour Air France, par exemple, pour le patron de Ben Smith.
Des Zidane ou des Mbappé du management. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quasiment pas de marché mondial des patrons. Alors si, on connaît quelques cas emblématiques, mais la réalité, c'est que quand vous regardez les grandes entreprises cotées dans chaque pays, 90% des dirigeants de ces entreprises sont de la nationalité de l'entreprise concernée, et la plupart d'entre eux sont même issus des rangs de l'entreprise. Donc il n'y a pas véritablement de marché mondial des patrons. Donc ça, c'est pas...
Regardez la France KLM, on nous dit on va chercher Ben Smith,
alors effectivement,
parce qu'il est très bon.
Ça fait encore une fois partie de ces quelques exceptions, mais globalement, c'est pas la réalité mondiale.
Combien vaut un gros patron? Honnêtement, les patrons du CAC 40, ils sont payés aujourd'hui en moyenne 5 millions d'euros. Ça veut dire 277 années de SMIC. Il faut qu'un SMICard travaille pendant 277 ans pour gagner ce que gagne un patron en une année. Vous élargissez au plus grand, parce que le CAC 40, il n'y a pas que le CAC 40 dans la vie, les 120 plus grands patrons, 3,8 millions. Ça fait encore plus de 2 siècles de travail pour un SMICard. L'INSEE nous donne les statistiques sur combien sont payés les dirigeants d'entreprise selon la taille de l'entreprise. Sur les patrons de plus de 50 salariés, en moyenne 120 000 euros net. Là, on prend des proportions à peu près honnêtes, c'est à peu près 8 SMIC et demi. Alors bien sûr, il y a en moyenne 120 000, ça fait 220 000 dans la finance, 80 000 dans le transport et la restauration, mais en moyenne 120 000 euros, on est à 8,5 SMIC. Je vous rappelle que la loi française dit que pour les patrons des entreprises publiques, on est à 450 000 euros, ça fait une trentaine de SMIC. Voilà, là on est dans des proportions honnêtes. On peut se dire un patron est bien payé parce qu'il arrive bien à développer son entreprise, mais quand on est dans des millions par an, là on est hors de proportion. Les patrons font sécession du reste de la société.
Bah, les patrons.
Les grands patrons.
Quelques patrons. Et c'est ça qui est quand même dommageable.
Bah, 5 millions en moyenne, c'est quand même beaucoup.
Oui, mais sur combien de patrons, Christian? Une centaine en France. Je rappelle qu'il y a quand même 3 millions d'entreprises dans ce pays.
Hein,
les retraites chapeaux, c'est pareil. Quand on dit les retraites chapeaux, spectaculaires. Mais il faut savoir que les retraites chapeaux, c'est pas réservé à l'élite des grands patrons. Vous avez quand même plus de 100 000 entreprises en France qui distribuent des retraites chapeaux. Il y a 1 million de salariés qui touchent des retraites chapeaux, des surcomplémentaires. Ouais, il y a à peu près 1 million de salariés qui en touchent. Sauf que, en réalité, on est sur des sommes qui sont de quelques milliers d'euros pour la plupart d'entre eux. Donc, encore une fois, il y a que un tout petit nombre de patrons qui sont concernés cerné par ces salaires stratosphériques. C'est franchement, et quand on voit tout ce que ça génère comme débauche de volonté, de légiférer, etc., on se dit que quand même c'est pas ça, et que la réalité des patrons c'est pas ça. Le salaire moyen, et alors pour le coup des patrons français, Christian a donné un ordre d'idée, mais vous avez la plupart des patrons de PME, ils sont à 4 500 euros par mois maximum, et ils sont souvent responsables de leur propre boîte. S'ils font faillite, c'est eux qui
payent les pots cassés, 120 000 euros pour les 50, ils sont quand même dans les 1% les plus riches.
Ce sont des oui d'accord, mais ce sont des abus extrêmement concentrés.
Alors, on va prendre quelques exemples, justement, parmi ces cas dont on a beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers jours. Concernant Renault, le nouveau président Jean-Dominique Senard fait diviser son salaire fixe, on parle bien du salaire fixe, par deux par rapport à ce que touchait Carlos Ghosn. Est-ce que c'est un bon signal pour vous?
Mais c'est plus que divisé par deux, parce qu'effectivement, Ghosn touchait un million de fixe,
mais
c'était 8 millions en tout avec le variable, et Senard a bien dit 450 000 sans bonus supplémentaire. Donc on passe de 8 millions à 450 000. Tu sais, j'ai retrouvé cette vieille intervention d'Antoine Riboud, qui est le fondateur de BSN, l'ancien fondateur de Danone. En 1972, il est dans ce qu'on n'appelait pas encore le MEDEF, mais le CNPF, et il dit il y a des hommes d'État et il y a des chefs d'entreprise qui sont des chefs d'État quelque part, des gens qui mettent en avant le bien commun, l'intérêt général, plutôt que leur intérêt particulier. Et vous lisez ce discours qui est incroyable. Il faut de l'égalité au sein de l'entreprise, il faut faire attention à l'environnement, on est en 72, incroyable. Voilà, Jean-Dominique Senard, c'est peut-être le type même du patron, je dirais, type Riboud, et ça, malheureusement, il n'y en a pas assez.
Oui, mais ce que ça veut dire quand même, c'est que... en fonction du tempérament du dirigeant d'entreprise, il n'y a pas les contre-pouvoirs nécessaires dans l'entreprise.
Ah, tout à fait.
Si vous avez quelqu'un de raisonnable comme Jean-Dominique Senard, bon bah vous arrivez à ce niveau-là. Mais quand vous avez quelqu'un comme Carlos Ghosn de plus gourmand, rien ne l'a empêché de faire ça. Alors attention, vous pouvez pas tout à fait comparer quand même non plus la rémunération de Jean-Dominique Senard avec celle de Carlos Ghosn, parce que Carlos Ghosn il cumulait les fonctions de Jean-Dominique Senard et celles de Thierry Bolloré.
Oui, mais vous rajoutez 8 millions. Hein.
Oui, d'accord. Mais je veux dire, c'est pas tout à fait pareil.
Mais il y a quand même un message
vous
clair.
Voyez que ça dépend quand même considérablement des contre-pouvoirs. Et c'est ça un bon système de rémunération. Ce serait un système dans lequel vous avez d'abord une transparence totale. C'est-à-dire qu'il faudrait...
Il y a
que...
la transparence déjà,
non,
Emmanuel.
Elle est obligatoire. Elle n'est pas totale sur
non,
la
façon
dont c'est calculé.
C'est pour ça qu'on peut débattre. C'est parce qu'on a les chiffres. Ça ne change rien.
Et puis vous pourriez aussi avoir par exemple l'obligation pour ces patrons qui sont hyper motivés par la valeur du cours de bourse, d'être obligés de détenir leurs actions plus longtemps, etc. Il y a des dispositifs à mettre en place.
Alors justement, est-ce qu'on peut compter sur l'autorégulation des entreprises ou est-ce que d'après vous, il faudrait une loi, une bonne fois pour toutes?
Mais même les lois, elles servent à rien, on les fait pas.
Est-ce qu'il faut en faire?
Non, mais les lois sur les retraites chapeaux, Bruno Le Maire qui nous dit qu'il veut limiter le montant de la retraite chapeau à 30% du salaire. Mais depuis Nicolas Sarkozy, il y a eu l'affaire Varin sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, François Fillon, ils ont tous renoncé finalement à légiférer en disant aux entreprises, finalement, on va compter sur l'autorégulation. Et je laisse Christian parler du bilan de l'autorégulation.
Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, Emmanuel Faber, le dirigeant actuel de Danone, il a refusé sa retraite chapeau de 1,2 million par an, que l'entreprise a dit, mais on est prêt à te la donner. Donc, à part ces quelques exceptions, les grands patrons, visiblement, n'arrivent pas à ne pas faire sécession. C'est l'abbé Sieyès, juste avant la Révolution française, qui dit, vous ne cherchez pas à être reconnu par vos concitoyens, vous cherchez à être connu, à vous dépasser de vos concitoyens. Ils veulent vraiment faire complètement sécession. Le mieux, ce serait de les interdire, je pense, les retraites chapeaux, mais on peut pas, on nous dit c'est du droit privé. Les 30% de Bruno Le Maire, Emmanuel l'a dit, c'est n'importe quoi. Le patron de Technip ou celui de L'Oréal aujourd'hui serait peut-être touché, mais tous les autres pourraient gagner leurs millions. Et à défaut de pouvoir les interdire, je pense qu'il faut faire autre chose. Par exemple, fiscaliser les montants. J'ai dit tout à l'heure, les montants qu'on met, les entreprises mettent de côté, pas de CSG, pas de CRDS, on les déduit des profits, ça c'est pas possible. Il faut que ça, l'entreprise veut le faire, il faut que ça coûte à l'entreprise. Taxation les revenus, malheureusement le président de la République actuelle est pour ne pas taxer les revenus, il pense que plus les riches sont riches, plus tout le monde va bien. Moi je pense pas, je pense qu'il a tort. Et enfin, qui gère ces gros paquets d'argent? Ce sont les compagnies d'assurance. Peut-être qu'on peut avoir une régulation en régulant mieux les compagnies d'assurance.
Dernière question sur laquelle j'aimerais bien vous entendre tous les deux en quelques mots, parce qu'on l'a réentendu cette semaine. Est-ce que selon vous, l'idée de limiter les écarts de salaire qui ne devraient pas dépasser 1 à 10 dans les entreprises, c'est une bonne idée ou pas? En quelques mots, Emmanuel Le Chypre.
Non, c'est insupportable comme idée parce que là, on est dans la morale, on n'est pas dans l'économie. Il y a le seul niveau de salaire qui devient inacceptable pour un patron, c'est quand ce niveau de salaire crée dans l'entreprise un malaise au niveau des salariés et que finalement ce salaire très élevé perturbe le fonctionnement de l'entreprise. Après, c'est une entreprise privée, c'est les actionnaires qui décident. Voilà, et s'il n'y a pas d'autocontrôle, il n'y a pas d'autocontrôle.
Ce malaise, il est créé par l'injustice. L'injustice, elle vient du fait que les écarts sont trop gros, alors que c'est pas un patron qui arrive à faire des bons résultats dans une entreprise, c'est un collectif, une entreprise. C'est pas simplement, il faut bien sûr qu'il faut un bon dirigeant, mais c'est un collectif. Et quand l'écart est trop grand, ça crée du malaise, ça crée de la baisse de productivité. Donc il faut, oui, moi je suis favorable à cette mesure, il faut un écart maximum.
Merci beaucoup à vous deux, Christian Chavagneux, Alternative Économique, Emmanuel Le Chypre, BFM Business. L'économie, c'est aussi à l'autre bout de l'échelle sociale le sort des plus pauvres qui veulent faire entendre leur voix. Alors que se termine le grand débat, première restitution après-demain lundi, un grand débat, on le sait, dans lequel se sont fait entendre beaucoup de Français issus des classes moyennes parmi les plus modestes, mais pas forcément les plus pauvres. C'est la raison pour laquelle le Secours catholique publie une contribution particulièrement fouillée et riche d'enseignements. Sa présidente, Véronique Fayet, sera notre invitée dans un quart d'heure. Mais d'abord, direction Londres, où le suspense reste entier autour de la date du Brexit. Or, vous le savez, le doute en économie, ce n'est jamais très bon.
That panel referred to a big finish for Brexit.
No vote seems to be final.
The eyes to the right, 310.
We could make a success of no deal in the long term.
Et on retrouve le correspondant permanent de France Inter à Londres, Antoine Gignot. Bonjour Antoine.
Bonjour.
De ce côté-ci de la Manche, le Premier ministre Édouard Philippe s'est réjoui cette semaine d'une hausse considérable des investissements britanniques en France. Ça veut dire mécaniquement que beaucoup d'entreprises font leur Brexit à l'envers, en direction de l'Europe. L'économie britannique s'en ressent ?
En fait, il n'y a pas d'exode massif des entreprises à l'échelle de la City. 1500 postes seulement ont été déplacés vers le continent, avec quelques salariés qui s'installent à Dublin, à Francfort ou à Paris pour ouvrir des bureaux, pour se préparer au Brexit. Mais il y a effectivement, dans le même temps, un déplacement des investissements, près de 10 milliards d'euros qui, au lieu d'être utilisés ici, ont été placés, dépensés cette année dans des pays de l'Union européenne. Ça représente une augmentation de 30% des investissements pour la France. Et ça, c'est beaucoup plus problématique, notamment dans le secteur des services, qui représente 80% de l'économie et qui est tombé à son plus bas niveau de croissance depuis 2012, tout secteur confondu. La dernière fois que les carnets de commandes ont été aussi peu remplis, c'était en 2009, à cause de l'impact de la crise.
Il paraît même que les algorithmes les plus sophistiqués utilisés dans le cœur financier de la City à Londres en perdent leur latin, Antoine.
Oui, trop d'incertitudes, trop de rebondissements. Les algorithmes qu'utilisent les opérateurs financiers sont incapables en fait de réagir, parce qu'ils ne s'agit plus de suivre automatiquement les tweets d'une dizaine de députés, la politique de la première ministre, pour savoir quelles décisions prendre sur les marchés. Il y a aujourd'hui des milliers de rumeurs, des milliers d'informations contradictoires. Reuters publie environ 400 bulletins par jour, jusqu'à un millier pour Bloomberg. Personne, donc, ne veut prendre de risques. Si on compare, on échangeait environ 90 milliards d'euros par jour avant le Brexit. On est aujourd'hui à 58 milliards. C'est colossal.
Justement, à propos de la finance et des banques, certains économistes chez vous n'hésitent pas à relier le Brexit à la crise bancaire d'il y a 10 ans. Expliquez-nous ça.
Oui, les analystes de l'université de Warwick, mais aussi la carte géographique du vote du Brexit le montre. On a voté pour sortir de l'Union européenne dans les endroits les plus isolés, là où les services publics ont le plus souffert de la politique d'austérité qui a été mise en place après la crise de 2008. Ça ne va sans doute pas s'arranger d'ailleurs. Ce qui est intéressant quand on regarde la croissance, c'est qu'elle se maintient artificiellement grâce aux ménages britanniques. Les derniers chiffres le prouvent. Ils dépensent plus qu'ils ne gagnent, ils piochent dans leurs réserves ou ils s'endettent, ce qui veut dire qu'à moyen terme, avec le Brexit, la situation va probablement empirer.
Merci Antoine Gignot, correspondant permanent de France Inter à Londres. On ouvre à présent une page sociale dans N'arrête pas l'écho avec cette question. Comment faire en sorte que ceux qui ont droit à des aides sociales les réclament ? Figurez-vous que c'est loin d'être automatique.
Donc je fais des photocopies.
Ça, c'est des photocopies.
Ça, c'est des photocopies, donc je peux les garder.
Oui.
Ok. Bah, je m'en occupe.
D'accord.
Alors là, on se trouve avec Fatima Haït Ouellal, travailleuse sociale, et avec Jean-Marc Casanov. Fatima, vous suivez Jean-Marc depuis combien de temps ?
Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on s'est rencontrés dans des circonstances d'accompagnement social.
Tous les 3 ans, j'ai une maladie chronique invalidante quand même.
Qu'est-ce que vous avez comme maladie chronique ?
J'ai eu une hépatite C. Je me suis en marge de la société.
Vous avez quel âge, Jean-Marc ?
Ah, je suis à l'aube de mes 55 ans.
Est-ce que ça a été facile d'avoir votre allocation d'adulte handicapé?
Moi, j'ai hésité beaucoup parce que je voyais en statut d'handicapé des murs partout.
Et la première allocation, pour ça, vous l'avez touchée quand?
Dix ans plus tard.
Dix ans plus tard?
Ah oui, je ne savais même pas que ça pouvait se demander. Pendant des années, moi, on m'a dit simplement, voilà, vous avez telle maladie chronique. Tout de suite, je n'ai pas su toutes les capacités que pouvait avoir ce statut, à savoir continuer à travailler, être accompagné. Je l'ai su beaucoup plus tard que je pouvais déjà être éligible à ce statut.
Nous voilà à Évreux, dans l'Eure, quartier défavorisé de la Madeleine, à 45 km de l'usine Renault-Cléon, où Jean-Marc a travaillé en intérim pendant un an et demi. Fatima Aït-Wailal, travailleuse sociale, l'accompagne depuis 10 ans. Il en a fallu du temps pour que Jean-Marc finisse par demander les aides auxquelles il a droit. On estime en France qu'environ 30% des allocations prêtes à être versées ne trouvent pas leurs bénéficiaires, même dans les cas les plus connus, comme les allocations familiales. Le pire, c'est la complémentaire santé de la couverture maladie universelle, la CMU-C. Deux tiers des ayants droit ne la réclament pas. Pourquoi? Comment remédier à ce paradoxe du non-recours? C'est un reportage d'Anaël Verzo.
Aujourd'hui, Jean-Marc, qu'est-ce que vous faites?
Actuellement, je touche une allocation au retour à l'emploi.
Une aide au retour à l'emploi qui s'élève à combien?
En dessous de 900 euros. Elle est due à mon arrêt d'activité fin juillet à travers une mission intérim de 18 mois.
Que vous avez effectué donc à l'usine Renault-Cléon, à côté, pas très loin d'ici.
Voilà, en tant qu'usineur, hein, mon métier de base.
Est-ce que Fatima, vous vous souvenez de ce moment où Jean-Marc est venu vous voir pour vous dire « bon, ben, j'ai fait plein de démarches et ça n'aboutit pas, c'est trop compliqué ».
Oui, je me souviens de ce jour-là. En effet, il m'a dit en effet que c'était compliqué, qu'il avait commencé des démarches, qu'il n'avait pas abouti, qu'il avait abandonné à un moment donné parce que à l'époque, il pouvait avoir droit à une complémentaire santé. CMU-C, comme on l'appelle. Et pour cette demande de CMU, il n'avait pas l'ensemble des documents qui avaient été demandés par la Sécurité sociale à l'époque. Je l'avais orienté là-bas. Donc il est revenu avec un listing, je me souviens, en me disant « Oui, il me faut ça, ça, ça ». J'ai repris avec lui en lui disant « Non, je vais t'accompagner ». À l'époque, je faisais beaucoup d'accompagnement physique à Jean-Marc. Ouais.
On prenait acte de mon cas. C'est malheureux, c'est que je me sens mal écouté. L'information qui nous est transmise est très superficielle. La personne, dans l'organisme où on se rend, donne une sensation que cette information, il faut que je la trouve ailleurs. On est un peu livré à soi-même, avec des difficultés techniques.
C'est qu'aujourd'hui, les dispositifs se sont complexifiés et que la charge, en fait, de l'éligibilité revient à la personne. Elle doit prouver elle-même qu'elle a un droit et qu'elle peut y accéder.
Moi, je vois des personnes qui abandonnent parce que c'est tellement flou. Je paye une mutuelle tant par mois. On m'a dit j'ai droit à un chèque à la sécu. Ils n'ont même pas dit comment faire. Ils m'ont juste dit que vous avez le droit, faites le nécessaire. Avant de me raccrocher.
C'est en fait aujourd'hui la personne qui a des droits, qui va jouer le maillage avec les différents informateurs, c'est-à-dire qu'il doit aller voir son bailleur pour lui dire « Attendez, je dois avoir une réponse, ils me l'ont donné, regardez, je vais aller à la CAF pour faire valoir mon droit d'humain. » C'est comme ça qu'on abandonne, c'est parce que cette multiplicité d'interlocuteurs où on doit à chaque fois porter la preuve de son droit, voilà. Donc nous, on soutient comme on peut.
Je pense que plein de gens sont dans mon cas et il faudrait vraiment que ça change. Enfin, trouver toutes les solutions à acquérir nos droits auxquels on a droit.
Manque d'informations, sentiment d'être renvoyé d'un service vers un autre, ces aides sont d'autant plus difficiles à acquérir qu'il faut aussi pouvoir accepter en avoir besoin. Fatima Aït-Wailal.
Il y a un côté négatif en fait. Avoir des minima sociaux, c'est ne pas avoir sa place dans la société, c'est de dépendre de la société. Et c'est ce que on leur renvoie généralement régulièrement, puisque quand on dit je suis bénéficiaire du RSA, c'est tout de suite ah, c'est un, excusez-moi du terme, cas social, ou ah ouais, il vit aux trousses de la société, enfin on travaille pour vous. Donc il y a des personnes qui refusent le RSA et qui veulent absolument travailler, qui veulent vraiment avoir leur place, donc ils ne vont pas faire cette demande-là.
En première ligne, les caisses d'allocations familiales tentent de réconcilier les allocataires perdus avec les institutions et de faire connaître leurs droits. Ce matin, avant d'aller travailler, Alice a rendez-vous à la CAF du 15e arrondissement de Paris avec une assistante sociale.
Alors, donc, on va faire un petit peu le point sur votre situation. Déjà, au niveau de la CAF de Paris, vous êtes déjà venue au niveau du service social de la CAF ?
Et j'ai vu l'une de vos collègues il y a 2-3 ans aujourd'hui.
Oui, et c'était par rapport à quoi?
C'était par rapport au logement, parce que j'avais un petit retard au niveau du logement.
D'accord, d'accord. Donc moi aujourd'hui, je vous ai proposé un rendez-vous dans le cadre de la prime d'activité, parce que vous êtes bénéficiaire de la prime d'activité, et donc vous avez un enfant, au moins un enfant de moins de 12 ans. Oui. C'est bien le cas?
Si, si, c'est bien le cas, mais j'ai deux enfants, un de 12 ans et demi et un de 2 ans et demi.
D'accord, ok. Donc, au niveau de vos droits, donc, vous avez donc les allocations familiales, donc, oui. Pour deux enfants, 131 euros. Vous avez également de l'aide au logement.
Oui.
Vous avez l'aide au logement de la ville de Paris.
Cette aide-là, je suis pas trop sûre de l'avoir, mais je sais que j'ai une aide par rapport à l'électricité. Et après, je sais pas si c'est la même chose.
En fait, la demande s'effectue dans le même endroit, c'est au niveau du CCAS. Oui. Et en fait, c'est une aide qui a une durée d'une année. D'accord. Ça vous aide vraiment justement à ne pas avoir de difficultés pour le paiement du loyer. C'est quand même un coup de pouce.
D'accord. Donc ça veut dire que c'est une demande qui est renouvelée tous les ans.
Oui, et c'est vous qui devez la renouveler. D'accord. Donc là, je vais vous demander donc du coup pour le prochain rendez-vous de retrouver l'attestation. Oui. Comme ça, on va regarder si l'année est écoulée. Donc du coup, on va refaire la demande.
D'accord.
D'accord. Donc vous, comme c'est une famille monoparentale, ce sera l'allocation logement. Famille monoparentale.
D'accord.
D'accord. Au niveau des enfants, pour les loisirs, donc.
Par contre, pour les loisirs, là, ça en prend vraiment. La première, elle a besoin d'avoir des activités comme tous les enfants.
Oui.
Elle veut faire la natation et le judo.
D'accord, donc elle pourra bénéficier. Donc nous, au niveau de la CAF, il y aura des aides.
Oui.
Et puis, vous aurez également, au niveau du département, il y aura également une aide complémentaire pour elle. C'est 50 euros par enfant et par activité.
D'accord.
Donc, c'est également un coup de pouce. Et puis, donc, on va se donner un prochain rendez-vous.
D'accord.
Des rendez-vous comme celui-là, il y en a eu 300 000 en 2018, essentiellement pour demander sa prime d'activité, qui, après les annonces de son augmentation par Emmanuel Macron en décembre dernier, a bénéficié à 1,3 million de personnes supplémentaires. Votre prénom, pardon, vous vous appelez comment ?
Carrie, puis assistante sociale.
Et du coup, là, la dame que vous avez reçue, elle a un droit à la prime d'activité, par exemple ?
Oui, tout à fait. Elle a un droit à la prime d'activité parce qu'au niveau des requêtes, il est ressorti qu'elle est isolée. La première condition, c'est de travailler.
Mais avec un salaire très bas.
Oui. De plus en plus, on reçoit des personnes qui ont la prime d'activité et qui sont même fonctionnaires à plein temps. Ce sont souvent des femmes qui ont donc du coup un salaire bas. Parfois elles sont à 1000, 1100 euros. Et elles ont un CDI, elles travaillent à plein temps.
Et vous recevez combien de personnes comme ça par jour?
Ben, en fait, au maximum, on va recevoir 3 personnes parce que nous, en fait, on fait des entretiens d'une heure. Ça fait que depuis un an qu'on accompagne ces familles-là, dans ce cadre-là en tout cas, mais c'est un dispositif qui du coup trouve son sens au niveau de la CAF.
Donc je suis Anne-Sophie Dupéret et je suis directrice du développement à la CAF de Paris.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant, selon vous, pour améliorer encore le recours aux droits ?
On essaye, voilà, de travailler différemment. La CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, travaille sur un outil pour repérer les personnes qui sont en non-recours. Et nos chargés d'accès aux droits, depuis également récemment, vont dans les entreprises. L'objectif pour eux, c'est d'aller former les services RH et parfois les services sociaux de l'entreprise, des aides que nous proposons, afin que ces services RH puissent accompagner leurs propres salariés et les orienter vers nos aides.
Par exemple, quel type d'entreprise ?
Je pense à certaines entreprises, par exemple, d'aide à domicile, où il y a parfois plus de travail à temps partiel que dans d'autres entreprises, et du coup, des personnes plus facilement éligibles à la prime d'activité. Donc, en informant leur service RH, eux peuvent accompagner au mieux leurs propres salariés.
Les aides sociales non réclamées, c'était un reportage d'Anna Elverzou.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10. On n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour Véronique Fayet.
Bonjour.
Présidente du Secours catholique Caritas France et merci à nos amis de France Bleu Gironde qui rendent possible cette interview en direct depuis Bordeaux où vous vous trouvez. Le gouvernement s'apprête à présenter à partir de lundi les premières restitutions du grand débat. Ça y est, on en arrive aux conclusions. Allez-vous écouter le Premier ministre Édouard Philippe qui s'exprimera donc lundi? Qu'attendez-vous de lui?
Oui, alors bien sûr, le Secours catholique est invité à cette présentation par le Premier ministre des premières conclusions du grand débat. Et nous avons remis au Premier ministre, aux garants du grand débat, tous les députés et tous les sénateurs, le résumé des débats menés par le Secours catholique.
Parce qu'on 150 s'est dit très débats. Vite, hein.
Voilà, 150 débats qui ont touché des personnes qui sont loin de tout, qui ont des vies très difficiles, qui ont des tout petits revenus, parce qu'on savait que ces gens-là n'iraient pas dans les débats organisés par les maires ou dans les grands débats, par peur de pas savoir, par manque d'informations, pour beaucoup de raisons. Donc on s'est mis à l'écoute. Et donc, on a entendu d'abord la même souffrance, la même colère que les gilets jaunes. Là, les gens se reconnaissent là-dedans. Certains avaient un petit peu peur d'être oubliés. Certains disaient, mais nous, on est encore plus pauvres que les gilets jaunes. Et d'ailleurs, dans les premières mesures proposées par le président de la République en décembre, il y avait des mesures pour ceux qui travaillent, mais rien pour ceux qui ne travaillent pas, qui vivent du RSA ou d'autres primes, pensions d'invalidité ou autres. Voilà, donc il y avait cette petite crainte, mais majoritairement, ils se reconnaissaient dans ce débat des gilets jaunes.
Alors vos attentes, justement, ouais.
Alors on a fait ils ont fait des propositions très concrètes et très très intéressantes parce qu'elles sont voilà, elles touchent leur vie. Alors la première demande, ce qui revient massivement, c'est exactement ce que souligne votre reportage qui d'ailleurs est absolument passionnant, c'est la difficulté d'accès aux services publics, d'accès aux droits, etc. Et l'ennemi un peu numéro un, c'est la question de la numérisation. La numérisation qui peut être la meilleure des choses quand elle évite d'avoir trop de paperasse. Hein. Dans le début de votre reportage, on parle de toutes les photocopies qu'il faut fournir, des dossiers qu'il faut fournir à toutes les administrations, etc., en X exemplaires. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Et la plupart du temps, les gens n'ont plus d'interlocuteurs en face d'eux. Ils ont des répondeurs. Tapez sur 1 si vous voulez ceci, tapez sur 2 si vous voulez cela, tapez sur 3 si vous voulez encore autre chose. Et donc c'est insupportable, et très vite ils décrochent, ils abandonnent, et ça donne donc ce que vous dénoncez dans le reportage, donc un non-accès aux droits massif. Voilà.
C'est un chantier prioritaire
cette question, pour vous. Voilà, cette question de la numérisation, et cette question de la distance géographique aussi, puisque nous on intervient, on a 70 000 bénévoles, donc on intervient dans des milieux très ruraux, on a fait des débats dans des petits villages. Moi-même en Gironde, j'ai participé à un débat à Saint-Vivien-du-Médoc, voilà, à la pointe de la Gironde, très loin de Bordeaux, et les gens disent, bon bien, on est loin de tout, on n'a plus accès à des services publics, donc une de nos demandes, ça serait que des services, des maisons d'accès aux services publics, des maisons de services publics, ça existe déjà, soit accessible à tous les Français à un quart d'heure, une demi-heure, grand maximum de chacun. Et ça serait pas très compliqué, ça pourrait se passer dans une mairie avec des permanences des différentes administrations, et ça bénéficierait à tout le monde, aux personnes fragiles, mais aussi aux personnes âgées, mais aussi aux agriculteurs, enfin à tous ceux qui veulent continuer à vivre dans ces milieux ruraux. Donc cette question de l'accès aux services, de l'accès aux droits et de la numérisation parfois excessive est vraiment très 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 prioritaire, voilà, parce que cette rupture des droits est dramatique souvent.
Alors vous disiez que le grand débat ne s'était peut-être pas suffisamment intéressé aux plus pauvres, qu'il avait mis l'accent effectivement sur les classes moyennes et les plus modestes. Je vous propose d'écouter ce que disait Emmanuel Macron, c'était le 10 décembre dernier.
La colère est profonde. C'est celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois. C'est celle des retraités modestes, qui ont contribué toute leur vie et souvent aident à la fois parents et enfants et ne s'en sortent pas.
Véronique Fayet, la frontière est parfois ténue entre grande précarité et pauvreté. Il y a quand même, vous le reconnaissez, une volonté d'aller vers les plus déshérités.
Oui, absolument. Et il faut surtout pas opposer ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas, parce que je te dis, c'est la même colère et c'est la même souffrance. C'est la souffrance qui a été très bien exprimée par l'assistante sociale dans votre reportage il y a quelques minutes, qui dit que quand on a des minima sociaux, on est traité de cas social, on est montré du doigt, on n'a pas sa place dans la société, donc on le ressent très profondément comme une humiliation. Ce qui fait d'ailleurs que certains refusent de demander le RSA et préfèrent s'en passer et chercher à tout prix un travail, donc avec beaucoup de dignité. Il faut saluer cette dignité. Donc il faut surtout pas opposer ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Il faut vraiment voir que c'est un problème unique et que c'est vraiment en résolvant, on résoudra les problèmes des uns et des autres ensemble.
Alors justement, sur cette problématique de l'accès au marché du travail, il y a des freins, la formation, les mobilités. Comment insérer les plus pauvres sur le marché du travail? Les entreprises ne sont pas des lieux d'accueil, mais vous les appelez à se montrer plus fraternelles. Comment on fait?
Alors, les entreprises, effectivement, ont un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté. Je pense que y a peut-être des mesures à prendre au niveau économique pour faciliter l'embauche d'un premier salarié. Par exemple, je me souviens, dans une campagne électorale présidentielle il y a quelques années, un des candidats proposait un emploi franc. C'est-à-dire que le premier emploi pour un artisan serait exonéré de charges. Ça pourrait encourager des entrepreneurs à recruter. On a aussi de très belles expériences. On participe avec d'autres associations, avec ATD Carmonde et d'autres, à une expérimentation qui s'appelle les territoires zéro chômeur de longue durée. Oui. Et donc, il y a 10 territoires expérimentaux. Vous connaissez sans doute cette expérimentation. Et on voit que sur un territoire limité, en partant des compétences des chômeurs de longue durée, en partant de leurs rêves, de leurs talents, eh bien, on arrive à créer sur un territoire des emplois parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins pour l'entretien de la nature, il y a des besoins de services aux personnes, il y a des besoins de services aux toutes petites entreprises, PME, entreprises artisanales, etc. Et on voit que ça marche sur ces territoires. Donc c'est possible quand tout le monde se met autour de la table, et c'est justement le petit miracle de ces territoires zéro chômeur de longue durée, c'est que tout le monde est autour de la table, les élus, les entreprises, les chômeurs de longue durée, les administrations, et ça marche. Donc il faut vraiment creuser ces pistes-là et voir où est-ce qu'on peut trouver un vrai travail, et donc au fond remplacer le plus possible ces minima sociaux dont les gens ont honte. Alors que c'est un droit, ils ne devraient pas avoir honte. À un moment donné, on peut avoir besoin d'un soutien de la nation. Eh bien, il faut les remplacer par l'accès à un travail avec un accompagnement. Et ça aussi, c'est très bien souligné dans votre reportage. Très, très bien. Et ça, Jean-Marc, là, il a la chance d'avoir la même assistante sociale depuis 10 ans. Et ça, c'est un trésor, mais c'est extrêmement rare. Souvent, les assistantes sociales changent. Et donc là, on voit bien qu'il y a, entre Fatima et Jean-Marc, une relation de confiance, que Fatima l'a accompagné pas à pas. Il dit, je ne savais pas, j'y arrivais pas, je me décourageais, je me sentais mal écouté. C'est poignant, cette phrase. Je me sentais mal écouté. Eh bien, avec une assistante sociale qui lui fait confiance, qui l'accompagne pas à pas, on voit que Jean-Marc, il relève la tête, il a plus honte et il accède à ses droits. Et c'est vers ça qu'il faut aller, vers un accompagnement qui permet aux gens de sortir la tête de l'eau et de retravailler et de se sentir qu'ils ont une vraie place dans la société.
On a aussi beaucoup parlé, ça sera la dernière question, Véronique Fayet, de fiscalité dans ce grand débat. J'aimerais vous entendre sur une idée, celle de rendre l'impôt sur le revenu universel, même symbolique, pour ceux qui gagnent peu, comme Jean-Marc. Est-ce que cela retisserait un lien avec la nation? Est-ce que vous entendez cet argument?
Oui, effectivement, c'est quelque chose qui a été abordé dans les débats et que je trouve vraiment à creuser, parce que les personnes qui sont en situation difficile, voilà, ils en ont marre d'être à part. Ils ne veulent plus des mesures pour les pauvres, des choses spécifiques pour les pauvres, des distributions alimentaires pour les pauvres, des épiceries pour les pauvres. Ils veulent être comme tout le monde. Et donc, ils veulent contribuer à la société. Ils veulent bien être aidés, protégés, mais ils veulent surtout contribuer. Et l'idée d'avoir un euro symbolique ou 5 euros symboliques d'impôts, je pense, est à creuser. Mais il faut rappeler que par la TVA, qui pèse très lourdement et plus lourdement proportionnellement sur les tout petits revenus, ils contribuent déjà évidemment à la fiscalité et ils sont imposés. Mais ce petit euro symbolique de l'impôt sur le revenu, à condition aussi qu'on aille voir dans les très hauts revenus, notamment dans les 1% les plus riches, comment augmenter l'imposition sur ces salaires-là, parce qu'il y a encore à voir, je pense, dans notre pays sur la progressivité de l'impôt.
Une dernière question dans les entreprises, on en parlait tout à l'heure dans notre débat sur les rémunérations, cette fois à l'autre bout de l'échelle sociale, si je peux dire. Est-ce que selon vous, il faudrait encadrer les écarts de rémunération de 1 à X, à combien ?
Oui, moi je pense que ça serait sain. Alors nous, on connaît beaucoup l'économie solidaire. Les entreprises de l'économie solidaire ont limité l'écart de salaire de 1 à 10 ou de 1 à 12. Bon, c'est exemplaire, ça peut pas s'appliquer partout, mais il n'empêche que ça fonctionne. Et donc, il faut vraiment le faire. J'ai relevé dans votre reportage aussi quelque chose de très intéressant que je savais, mais qui m'est revenu en lumière. La prime d'activité est versée à des fonctionnaires qui ont des CDI à plein temps. C'est quand même un paradoxe absurde. Ça veut dire que d'un côté, l'État, la fonction publique, ne rémunère pas suffisamment ses fonctionnaires. Et que d'un autre, elle reconnaît bien justement que c'est insuffisant puisqu'elle leur verse une prime d'activité. Donc là, il y a quelque chose qui est absolument incohérent. Donc il faut sans doute augmenter les primes à salaire dans la fonction publique.
Merci beaucoup Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France. Merci d'avoir été notre invitée. Ma vie au boulot, Sandrine Foulon, question aujourd'hui sur les primes défiscalisées versées en entreprise.
Oui, alors Sophie, comme son nom l'indique, il s'agissait d'une prime exceptionnelle votée dans le cadre de ce qu'on a appelé la loi Gilets jaunes. Rien ne dit que le gouvernement fera revoter cette mesure. C'est vrai, elle a rencontré un certain écho. Les entreprises avaient jusqu'au 31 mars pour verser cette prime exonérée, jusqu'à 1000 euros, d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales. Rien qu'en janvier, plus de 2 millions de salariés du secteur privé avaient bénéficié de ce coup de pouce au pouvoir d'achat pour un montant moyen de 450 euros. Évidemment, beaucoup d'entreprises avaient déjà l'intention d'octroyer une prime de fin d'année, sous une forme ou une autre. Du coup, la mesure a créé un effet d'aubaine. Elle a sans doute aussi incité les entreprises à mettre la main au portefeuille. Payer 1 euro sans devoir en verser 2 est assez attractif. Et puis, les syndicats ont su jouer leur partition. Dans certaines entreprises, ils ont fait pression pour obtenir la prime Macron. C'est le cas chez ST Microelectronics. La direction avait d'abord dit niette. Et puis oui, les salariés ont finalement obtenu des primes de 150 à 800 euros en fonction de leur salaire.
Est-ce qu'il y aurait un intérêt à pérenniser ce genre de mesures ?
Le premier problème, c'est qu'il y a les chanceux et les autres. Tout le monde n'y a pas eu droit, à commencer par les fonctionnaires. Dans le secteur privé, les entreprises du CAC 40 ont toutes répondu présentes. C'est beaucoup moins le cas dans les PME et les très petites entreprises. Et ça dépend du secteur. Mieux vaut travailler dans les assurances, comme vous Sophie, que dans l'hôtellerie-restauration. En tout, il n'y a que 12% des entreprises qui ont versé cette prime. Le deuxième problème est que ce genre de cadeau vient percuter les négociations salariales. Certains employeurs peuvent considérer que la prime tient lieu d'augmentation. Déjà que la rémunération des performances individuelles prend de plus en plus le pas sur les augmentations générales, les primes, par nature non pérennes, ne sont pas forcément une bonne affaire. Et puis, troisième écueil, comme le dit souvent mon voisin Christian Chavagneux, en économie, il n'y a pas de repas gratuit. Sur le coup, c'est sympa de ne pas payer d'impôts, ni d'alimenter les caisses de la Sécu, mais il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui devra régler la note.
Merci Sandrine, et à la semaine prochaine. Après le journal, on aura tout vu. L'émission cinéma de Christine Masson et Laurent Delmas.